présenté par Eve Barta.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, on va parler des Jeux Olympiques, de pourquoi ils arrivent à autant fasciner un peu tout le monde, et puis on parlera aussi des Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Je vous propose de démarrer cette émission en écoutant Heaven or Las Vegas de Cocteau Twins.
We'll be right back.
venons d'écouter Living Bones de Komodo. Et donc, comme je vous le disais en introduction, je voulais parler des JO. En effet, je me suis surprise à apprécier regarder le ski de boss, les descentes de Super G ou encore le patinage artistique alors que je suis jamais montée sur des skis de ma vie. Et c'était pareil pour les JO de Paris en 2024, j'étais même un peu triste que ce soit fini. Alors que vous pouvez me croire sur parole, je déteste regarder le sport à la télé et pourtant. Alors, pourquoi les Jeux Olympiques nous fascinent-ils ? La question peut sembler évidente, après tout, il s'agit du plus grand événement sportif mondial, mais si l'on regarde d'un peu plus près, cette fascination est presque paradoxale. Car avant chaque édition, les critiques pleuvent. On parle de dépenses excessives, d'impact écologique, d'infrastructures inutiles, de dérives commerciales, on doute, on s'agace, on ironise, et pourtant, lorsque les Jeux commencent, les mêmes voix critiques se taisent souvent pour laisser place à une sorte d'émotion. En France, les Jeux de Paris 2024 en sont un exemple frappant. Pendant des mois, une partie des Français s'est montrée réticente, on entendait que cela coûterait trop cher, que ce serait un désastre logistique, que les priorités étaient ailleurs. Les débats étaient omniprésents, certains affirmaient même qu'ils ne regarderaient pas. Puis l'été est arrivé, la cérémonie d'ouverture a illuminé la scène, les premières médailles sont tombées, des athlètes français ont brillé, et soudain, l'ambiance a changé. Les audiences ont explosé, les terrasses vibraient au rythme des finales, les réseaux sociaux, si critiques quelques semaines plus tôt, se sont remplis de messages de fierté et d'enthousiasme. Aujourd'hui, un phénomène similaire se dessine avec les Jeux d'hiver de Milan Cortina. Les critiques existent, comme toujours, coût, écologie, organisation. Et pourtant, les performances captivent, les exploits circulent et l'intérêt grandit. Ce schéma se répète presque mécaniquement à chaque édition. Alors pourquoi les Jeux Olympiques fascinent-ils autant, même ceux qui les critiquent ? D'abord parce qu'ils racontent des histoires. Les Jeux ne sont pas seulement une succession d'épreuves, ils sont un concentré de destins humains. Derrière chaque athlète, il y a des années d'entraînement, des sacrifices, des échecs, des blessures, des remises en question. Et en quelques secondes, tout se joue. Une finale de natation dure moins de 2 minutes. Un sprint se décide en 10 secondes, mais ces instants sont chargés d'une intensité immense. Nous ne regardons pas simplement une performance sportive, nous assistons à l'aboutissement d'une vie consacrée à un objectif. Ces récits nous touchent parce qu'ils parlent de l'effort, de persévérance, de courage. Nous nous reconnaissons dans ces trajectoires, même si nos défis sont différents. Les Jeux transforment l'abstrait en concret, le travail acharné devient une médaille, le doute devient une victoire, la chute devient une revanche. Ensuite, les Jeux fascinent parce qu'ils créent une unité rare dans un monde marqué par des divisions politiques, sociales et culturelles. Ils offrent un moment de rassemblement, on peut dire. Pendant quelques semaines, certaines tensions semblent suspendues, semblent en tout cas. On se retrouve devant un écran, en famille ou entre amis, pour encourager les mêmes athlètes. On partage la même joie, la même déception. Ce sont des émotions collectives. À Paris, en 2024, cette dimension a été particulièrement visible. Des personnes qui n'avaient pas les mêmes opinions sur l'événement ont finalement vibré ensemble pour les performances françaises. Les discussions ont changé de ton, la critique du projet a laissé place à l'enthousiasme face aux exploits. Cette unité est fragile et temporaire, mais elle est précieuse. Elle rappelle que malgré nos désaccords, nous pouvons encore partager des moments communs. Les Jeux incarnent également un idéal, celui du dépassement de soi. Ils mettent en scène l'idée que l'humain peut aller plus vite, plus haut, plus fort. Cette devise, bien que simple, résonne profondément. Elle évoque la progression, la quête d'excellence, la volonté de repousser ses limites. Même si on sait que les Jeux sont aussi un enjeu économique et politique, l'image qui domine reste celle de l'effort récompensé. Nous sommes fascinés par les records battus, les performances inattendues, par les outsiders qui triomphent. Il y a quelque chose d'universel dans cette admiration. Le sport devient une métaphore de la vie, tomber, se relever, recommencer. Il faut aussi comprendre que la critique et la fascination ne sont pas incompatibles. On peut dénoncer le coût d'un événement tout en étant touché par ce qu'il produit. La critique vise souvent l'organisation, le système, les choix politiques. La fascination, elle, concerne les émotions. Elle est immédiate, spontanée. C'est ce qui s'est passé en France. Beaucoup ont continué à questionner l'héritage économique ou écologique des Jeux de Paris, mais cela ne les a pas empêchés de ressentir une fierté sincère devant les performances des athlètes. De la même manière, les débats autour de Milan Cortina n'empêchent pas les spectateurs d'être impressionnés par les exploits sur la neige et la glace. Les Jeux Olympiques sont aussi un spectacle mondial. Peu d'événements rassemblent autant de nations, des pays aux cultures, aux langues et aux histoires différentes se retrouvent sur une même scène. Des athlètes parfois inconnus deviennent célèbres du jour au lendemain, des nations rarement mises en avant accèdent à la lumière. Pendant quelques semaines, le monde regarde dans la même direction. Cette dimension planétaire renforce la fascination. Nous avons le sentiment d'assister à quelque chose qui dépasse nos frontières. Les images circulent partout, créant un moment partagé à l'échelle globale. Dans une époque où l'information est fragmentée et personnalisée, les Jeux constituent un rare rendez-vous commun. Enfin, les Jeux réveillent en nous une part presque enfantine. Les cérémonies d'ouverture, les drapeaux, les médailles, les hymnes, tout cela relève du symbole et du spectacle. Il y a aussi une mise en scène, une dramaturgie. Même les plus sceptiques peuvent être touchés par la beauté d'un moment, par la joie d'un athlète en larmes sur un podium. Au fond, les Jeux Olympiques fascinent parce qu'ils concentrent ce que nous aimons voir, des histoires humaines fortes, des exploits extraordinaires, des émotions partagées. Ils ne sont pas parfaits, ils sont coûteux, contestés, parfois controversés, mais ils offrent un espace où l'émotion prend le dessus sur le débat. Peut-être que cette fascination dit quelque chose de plus profond sur nous. Nous avons besoin de croire en des moments d'unité, nous avons besoin de récits inspirants, nous avons besoin de spectacles qui nous dépassent et nous rassemblent. Les critiques ne disparaîtront pas, elles sont nécessaires, elles interrogent le sens, l'impact, l'héritage, mais elles ne suffisent pas à effacer la puissance émotionnelle des Jeux. C'est cette tension entre lucidité et émerveillement qui explique leur force. Nous savons qu'ils sont imparfaits et pourtant, lorsque la compétition commence, nous regardons. Parce qu'au-delà des chiffres et des polémiques, les Jeux Olympiques parlent d'efforts, de passion et d'humanité. Et cela, génération après génération, continue de nous fasciner. Je vous propose à présent de marquer une pause musicale et d'écouter Nabokov de Fontaines D.C.
You sold me on living.
Vous êtes toujours dans l'amphi sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nous venons d'écouter Grace de Jeff Buckley et on va marquer une pause musicale encore après laquelle je vous parlerai de cette fameuse BD dans laquelle Riyad Satouf suit cette fameuse Esther de ses 9 à 18 ans. Voici Mossaï Mossaï, Fourrière.
Chambre.
Écoutez Free de Salt. Et j'aimerais vous parler d'une bande dessinée un peu particulière. Une bande dessinée qui ne raconte ni aventures fantastiques, ni super-héros, ni grandes épopées historiques. Une bande dessinée qui parle d'une enfant. De son quotidien, de ses copines, de l'école, de sa famille, de ses goûts, de ses colères. Cette bande dessinée, donc, c'est Les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. À première vue, le concept est simple. Chaque année, Riyad Satouf rencontre Esther, une jeune fille, et retranscrit en bande dessinée ce qu'elle lui raconte de sa vie. Le projet commence lorsqu'elle a 9 ans et il la suit jusqu'à ses 18 ans. Une sorte de chronique annuelle de l'enfance et de l'adolescence contemporaine. Simple donc. Et pourtant, c'est précisément dans cette simplicité que réside toute la force de l'œuvre. Ce qui fascine d'abord, c'est le regard. Un regard d'enfant sur le monde des adultes. Esther part sans filtre, elle raconte ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend ou croit comprendre. Elle parle de ses amitiés, de ses disputes, des garçons, des réseaux sociaux, des inégalités à l'école, des professeurs, de politique parfois, des attentats, des débats qui traversent la société. Et à travers ces mots, on découvre une radiographie étonnamment précise de la France entre les années 2010 et 2020. C'est pas une analyse sociologique, c'est pas un essai politique, c'est un témoignage brut, spontané. Et c'est précisément ce qui le rend si puissant. Riyad Sattouf ne corrige pas Esther, il ne moralise pas, il ne la caricature pas, il retranscrit simplement, il met en scène, il encadre son propos par le dessin, mais il laisse sa voix intacte. Ce qui frappe, c'est l'authenticité. On a l'impression d'entendre une vraie enfant parler, avec ses exagérations, ses contradictions, ses jugements parfois abrupts. Esther peut être drôle, naïve, injuste, lucide, touchante. Elle peut admirer quelqu'un un jour et le détester le lendemain. Elle peut affirmer quelque chose avec certitude, puis changer d'avis quelques pages plus tard. Elle est humaine. Et c'est peut-être cela, la réussite majeure de cette bande dessinée. Elle capture la complexité de la construction d'une personnalité. Au fil des tomes, on voit Esther grandir et avec elle, on voit émerger des préoccupations nouvelles. Au début, ce sont des histoires de cours des récréations, qui est populaire, qui ne l'est pas, des vêtements à la mode, des dessins animés, des disputes avec ses copines. Puis arrivent les réseaux sociaux, l'image de soi, le regard des autres, le corps qui change, les premiers amours, les premières humiliations aussi. Plus tard encore apparaissent des questions plus larges, l'actualité, les débats de société, les tensions politiques. Esther répète parfois ce qu'elle entend chez elle, à la télévision ou à l'école, et c'est là que l'œuvre devient fascinante. Elle montre comment les enfants absorbent le monde des adultes. On réalise à quel point rien ne leur échappe. Les cahiers d'Esther, ce n'est pas seulement le portrait d'une jeune fille, c'est le portrait d'une génération. Une génération qui grandit avec les réseaux sociaux, avec l'omniprésence des écrans, avec une conscience très précoce de l'image et de la popularité. Une génération exposée en permanence au regard des autres. Esther parle beaucoup de pression sociale, de la peur d'être exclue, de l'obsession d'être cool. Et en lisant ces pages, on ne peut s'empêcher de penser à notre propre adolescence. Même si les contextes diffèrent, les mécanismes restent les mêmes, le besoin d'appartenance, la peur du rejet, la construction de l'identité restent. Mais ce qui rend la bande dessinée encore plus intéressante, c'est qu'elle ne cherche jamais à idéaliser l'enfance. On a tendance souvent à voir l'enfance comme une période innocente, douce, protégée. Les cahiers d'Esther montrent autre chose, la cruauté des enfants entre eux, la violence symbolique des mots, les hiérarchies implicites. La cour de récréation devient un microcosme social. Il y a les populaires, les invisibles, les rejetés. Il y a les codes à respecter, les tendances à suivre. On y retrouve en miniature les dynamiques du monde adulte. Et c'est là que Riyad Sattouf excelle. À travers le récit d'une enfant, il donne à voir toute une société. Son dessin, volontairement simple, presque épuré, renforce cette impression de sincérité. Les couleurs sont souvent douces, les traits expressifs, mais jamais surchargés. L'attention est portée sur les mots et sur les situations. Il y a beaucoup d'humour aussi, un humour parfois tendre, parfois grinçant. On rit des excès d'Esther, de ses formules radicales, de ses indignations, mais ce rire n'est jamais moqueur. On rit parce qu'on reconnaît quelque chose de vrai. La structure même de l'œuvre est intéressante. Chaque tome correspond à une année. On avance dans le temps, on voit les évolutions, les goûts changent, les opinions évoluent, les certitudes vacillent. C'est presque une expérience sociologique en temps réel. Et puis il y a une dimension plus profonde, celle du passage à l'âge adulte. Au fil des années, l'insouciance se fissure, les enjeux deviennent plus sérieux, les rêves se confrontent à la réalité, on sent apparaître des doutes, des inquiétudes, des prises de conscience. Lire les cahiers d'Esther, c'est accepter de regarder quelqu'un grandir. Et cela nous renvoie inévitablement à notre propre évolution. Moi, par exemple, j'ai grandi avec les cahiers d'Esther à chaque fois. À ses 18 ans, j'ai eu 18 ans, par exemple. On se souvient de nos propres contradictions, de nos propres excès, de nos propres maladresses, on se reconnaît dans certaines scènes, on est parfois surpris d'être touché par une réflexion qui semble pourtant simple. C'est là toute la subtilité de l'œuvre. Tout sous son apparence légère, elle aborde des thèmes profonds, l'identité, la pression sociale, la famille, la politique, les inégalités, la place des femmes, l'image de soi, sans jamais devenir pesante. Et Riyad Sattouf réussit à maintenir un équilibre délicat, laissé parler une enfant tout en permettant au lecteur adulte de lire entre les lignes. En refermant les cahiers d'Esther, on ne dit pas seulement qu'on a lu une bande dessinée, on a l'impression d'avoir observé un fragment de société, d'avoir assisté à la construction d'un regard sur le monde, et c'est peut-être cela la grande réussite de cette œuvre. Elle nous rappelle que chaque génération grandit dans un contexte particulier, mais que les questions fondamentales restent les mêmes. Qui suis-je? Comment être aimé? Comment trouver ma place? Les cahiers d'Esther n'apportent pas de réponse définitive, mais ils posent les bonnes questions et ils le font avec une honnêteté rare. Finalement, cette bande dessinée nous montre que grandir n'est pas un processus linéaire, c'est un chemin fait d'essais, d'erreurs, de certitudes et de doutes. C'est une transformation progressive, parfois invisible, parfois brutal. En suivant Esther, pendant presque une décennie, Riyad Satouf nous offre quelque chose de précieux, le temps. Le temps de voir évoluer une voix, le temps de mesurer les changements, le temps de comprendre que derrière chaque adulte, il y a un enfant qui a essayé de comprendre le monde. Et c'est sans doute pour cela que les cahiers d'Esther marquent autant, parce qu'en racontant l'histoire d'une seule jeune fille, ils racontent un peu la nôtre.
No.
C'est déjà la fin de cette émission. On vient d'écouter Post-Post de Psychotic Monks. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion lundi de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite un bon week-end. À lundi.
Présenté par Herbach.